une production Noyau Studio.
Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Pour cette cinquième saison de Vision, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes toujours en partenariat avec MPB, qui est la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Il y a un lien vers le site de MPB dans la description de ce podcast et sur notre propre site vision.photo. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Cette première image dont je voulais te parler, c'est donc une image qui a été prise au Liban, à Beyrouth. C'était en juin dernier, en juin 2023. Donc c'est une image en mode paysage. On voit, le premier truc qu'on perçoit, c'est une personne qui est debout, les mains dans les poches. Très vite, on comprend aussi qu'il y a un avion un peu dans le ciel, juste pas très loin de lui. Et au premier plan, on voit une grande surface qui est une espèce de colline avec des fleurs qui sont toutes illuminées. On est en fin de journée. Le soleil est en train de tomber, on peut le voir sur la gauche de l'image. Donc il y a cette partie colline, il y a cette personne debout, il y a cet avion. Et il y a un petit bout de mer qu'on voit là où le soleil va se coucher en fait. Encore une fois, on est en fin de journée. Et cette image, je la trouve importante parce que je trouve que même si j'ai passé qu'une petite semaine au Liban en mode entre guillemets touriste, je trouve qu'elle dit beaucoup, en tout cas selon moi, du Liban et de ce que j'ai pu y voir. C'est-à-dire un pays qui peut être plein d'espoir, qui peut être vachement vivant, qui peut être très coloré et très beau, mais avec beaucoup de mélancolie, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, avec beaucoup de gens qui sont sur place mais qui sont pas du pays, et je pense à des populations qui viennent de Syrie comme de Palestine. Et à travers cette image de cette personne qu'on voit de loin, avec cet avion qui est juste au-dessus de lui, il y a cette idée de départ comme d'arrivée. On ne sait pas trop du coup quel est le sens, s'il y a départ ou s'il y a arrivée, mais on peut ressentir une certaine... ça peut être soit quelqu'un qui a quitté son pays pour arriver ici, soit pour y trouver peut-être plus une meilleure situation, ou soit quelqu'un qui est arrivé mais qui aimerait aussi en repartir parce que ce n'est pas forcément son pays. On est à Beyrouth, du côté ouest, pas très loin de la corniche. On est en fin de journée, donc forcément les lumières sont très belles. Et il y a cette personne du coup qui émerge sur la colline. Et la photo se fait de manière complètement instinctive, c'est-à-dire je prends la photo sans même me poser la question. L'avion, je le vois que au développement, je crois que je le remarque même pas. Je sais qu'il y a des avions qui décollent et qui font que décoller de Beyrouth constamment toutes les demi-heures. Mais je le vois que bien plus tard. Et donc il y a tous ces critères-là où quand je prends la photo, je sais pas très bien ce qui se passe finalement quoi. On est bientôt un an après que j'ai pu photographier cette scène et c'est un peu le début je trouve de ce que j'aimerais entreprendre au fil du temps, enfin en tout cas dans les prochains mois et au fil des prochaines années en tant que photographe, c'est d'avoir un travail plus documentaire, plus journalistique, mais tout autant qui, pour moi en tout cas, avec un peu de... qui a une valeur aussi esthétiquement, évidemment, jolie, mais évidemment, il faut que les deux soient en accord, quoi. Il faut qu'il y ait un accord entre l'esthétisme et ce que raconte la photo au fond, quoi. Je m'appelle Louis Lepron, je suis photographe et journaliste. Je suis né à Perpignan, dans le sud de la France. Première chose qui me vient à l'esprit, j'ai toujours été passionné par le cinéma et la musique, évidemment, mais ça s'est venu plus tard au lycée. Mon parcours scolaire, il est assez classique, finalement. J'ai fait des études à Sciences Po à Toulouse, sans savoir trop ce que je voulais faire. Donc pour de nombreuses personnes qui ont fait les premières et terminales ES, c'est les gens qui ne savent pas trop quoi faire non plus. Donc c'est le doux prolongement du lycée, Sciences Po, en tout cas à Toulouse. Je fais une troisième année de mobilité, c'est ce qu'on appelle ça. On appelle ça comme ça quand on est à Sciences Po. C'est une troisième année qui est consacrée soit à un stage professionnel, soit à des études dans une université étrangère. Et moi, je choisis le stage professionnel et je pars à Londres pendant un an. Du coup, je fais un an dans ce qu'on appelle toujours le Bureau Export de la Musique Française, qui est un endroit où on fait la promotion de la musique française, du coup, en Angleterre. Donc là, c'est le marché britannique. Et au même moment, je découvre aussi les joies de, d'écrire des articles sur des sujets de ce qui m'intéresse, quoi, donc la culture. Ce que je fais au Bureau Export, c'est d'écrire aussi, de faire des espèces de petits rapports sur comment se déroule et comment fonctionne, on va dire, le marché de l'industrie de la musique en Angleterre pour les besoins, on va dire, du marché français qui a envie de savoir comment lui, en conséquence, veut s'introduire sur le marché britannique. Donc, c'est très factuel, c'est un peu boring, mais c'est quand même intéressant parce que je découvre du coup, par à coup, les arcanes un peu de l'industrie musicale britannique et forcément de la musique tout court britannique qui est hyper intéressante. Et je commence, en conséquence, je ne sais même plus pourquoi, mais je commence à ouvrir un blog. Ça devait être mi-année donc de ma mobilité, un blog où je parle de musique principalement. Je commence aussi à parler de ce que j'aime au cinéma, donc à faire des billets ou des choses un peu qu'on peut faire quand on est étudiant, donc des choses un peu originales. Enfin, en tout cas, j'essaie d'avoir un style d'écriture assez original. Enfin, tout ce que je peux essayer de faire à mon niveau, quoi. Et j'aime ça et je reviens du coup à Sciences Po. Et à Sciences Po, en quatrième année, il faut choisir ce qu'on veut faire. Et donc, il y a les masters en communication, il y a les masters en administration, etc. Enfin, des trucs assez précis et qui sont, voilà, qui amènent vers de belles carrières, on va dire. Et je me lance, moi, je décide de me lancer à ce moment-là vers le journalisme en me disant, c'est ça qui me plaît. C'est, encore une fois, c'est la poursuite de Sciences Po, c'est la poursuite de la première et de la terminale ES. C'est quelque chose où je peux toucher à tous les sujets. En sachant que quand même j'ai mes sujets de prédilection maintenant, c'est la culture. Ce qui m'amène progressivement à des demandes de stage, à passer par U89, qui est maintenant d'ailleurs un média chez Le Monde, le groupe Le Monde, qui me permet d'avoir mon stage de fin d'études là-bas, qui me permet aussi d'avoir, qui m'a vachement, vachement marqué en seulement 4-5 mois, parce que qu'ils me permettent de ne pas passer par le sérail des grands médias tradis qui donnent à faire un peu la même chose pour tout le monde quand on débute. C'est-à-dire, c'est vachement un travail de dépêche, c'est vachement un travail de sujets que je trouve assez formatés ou de manières d'écriture qui sont souvent assez formatées. En tout cas, quand on est jeune, comment dire, le mot d'ordre chez U89, c'est surtout ne faites pas de la news. Faites des sujets de rebond. On appelle ça des sujets de rebond parce que on prend un sujet qui est intéressant ou qui fait l'actualité. Et nous, l'idée, c'était de, en tout cas à R89, c'était de rebondir avec un sujet anglais. Donc, on sortait un peu de tout ce que le monde des médias disait à propos d'un sujet, et hop, on essayait de se mettre, de faire un pas de côté et d'arriver avec un sujet plus intéressant. Enfin, peut-être pas plus intéressant, mais en tout cas qui donnait une autre manière de voir le sujet, quoi. Un pas de côté. Et ça marque de vraiment énormément. À la fin de mon stage, j'ai réussi à trouver un autre stage à Combini, média que je découvre complètement par hasard via une amie. Et là, c'est parti pour 10 ans de travail dans le milieu de la culture, à développer un média qui avait déjà été reconnu pour sa manière de faire des vidéos, sa manière de faire de la web télé, comme on disait à l'époque. Combini, il débute en 2008. Et j'arrive en 2012. Donc ils ont déjà 4 ans d'existence, ils ont déjà une identité visuelle, ils ont déjà une réputation de média qui fait de la web télé avec des docus, avec des trucs vraiment originaux, vraiment des trucs vraiment très cool. Il y a même le Palma Show et tout qui à l'époque commençait chez eux. Et je débarque et le site, la web télé est un peu terminée on va dire, et s'est transformé en un site plus classique, le site qui existe encore actuellement. Où j'ai l'impression, enfin quand j'arrive, qu'ils cherchent un peu leur ligne édito et c'est normal parce qu'il n'y a pas vraiment de rédaction qui a été mise en place, quoi. Donc je débarque et j'ai vraiment trop de chance parce que je débarque au bon moment où il y a un besoin de direction, on va dire. Et je débarque, j'ai 24 ans, donc c'est ridicule de dire ça parce que j'ai aucune capacité à diriger quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais on fait confiance, donc je trouve un CDI au sein de Combini. Je me souviens qu'on me dit « t'as 3 mois pour augmenter les audiences » et je sais plus qui me dit ça d'ailleurs, et si ça le fait, on t'embauche, quoi. Donc c'est ce qui se passe. Je peux monter petit à petit la rédaction, j'ai réussi en tout cas à trouver des personnes en stage qui ensuite deviennent des CDD, des CDI ou des freelances et ainsi de suite. La rédaction s'augmente d'elle-même, elle se déploie, et là, pour le coup, petit à petit, il y a d'autres chefs de service qui émergent, côté foot, côté sport au global, côté série, et ainsi de suite. Donc, je suis pas au départ de ça, mais en tout cas, je suis dans la dynamique du lancement de cette rédaction de Combini, qui continue encore à travailler sur tous ces sujets-là maintenant. Sur ces 10 ans à Combini, pour moi, ce qui a été le plus intéressant, c'était l'idée de créativité. C'est-à-dire, on avait à peu près tout le loisir et toute l'autonomie pour lancer des nouveaux formats, de savoir en fait comment traiter de la culture quand on est en concurrence avec des médias tradis qui sont là depuis des dizaines d'années, qui sont dans les milieux de la culture, du cinéma, de la musique, de tous les milieux culturels depuis des années aussi. Comment toi, petit média web, tu débarres dans un milieu qui n'est pas forcément adapté à tes besoins. Et en collaboration du coup avec les créas de Combini, on a réussi à mettre en place des formats qui sont maintenant hyper iconiques, Fast and Curious, tout ça. Et ça nous a permis progressivement d'aller vers des sujets et des manières d'interroger le cinéma, la culture en général, plus approfondies. C'est-à-dire qu'avant, je me souviens quand on commençait, on avait des formats de 5 minutes. Et moi, je me souviens qu'au bout de 2 ans, bon, c'est pas qu'on s'emmerde, mais on a envie d'avoir plus de profondeur, donc on demandait, on faisait un peu pas du chantage, mais on disait, si vous voulez le Fast and Curious, vous aurez... derrière, nous, on veut autre chose, quoi, on veut quelque chose de plus long. Donc c'est comme ça que petit à petit, on évolue, on a plus de temps, et on a surtout plus de gens qui sont de plus en plus connus. Combini a toujours été, en fait, vraiment en phase avec les réseaux sociaux, donc on était en phase avec les besoins des réseaux sociaux. Si un réseau social avait besoin d'une vidéo d'une minute, et que c'était comme ça le critère, avoir une vidéo courte pour faire un carton sur les réseaux, il fallait qu'on fasse ça. Donc c'était d'ailleurs tous les médias web ou autres ont été un peu dépendants à un moment ou à un autre de ces critères-là, qui sont souvent officieux. On n'est même pas sûr que les réseaux sociaux ont ces critères mis en place, mais on y croit dur comme fer. Mais nous, ce qui nous plaisait, c'est qu'on pouvait s'adapter à plein de réseaux sociaux différents, et on va se dire, on va faire une vidéo courte pour Facebook, on va faire une vidéo longue sur YouTube, et on va faire une vidéo plus ou moins longue sur TikTok à un moment donné, ou sur Snapchat aussi. Et donc, il fallait un peu se débrouiller avec toutes ces possibilités-là et trouver la créativité, trouver des manières de, on va faire une vidéo très longue avec un talent, un artiste, et on va ensuite en prendre 3 extraits pour les mettre sur différents autres réseaux. Donc, ce sera YouTube qui sera, par exemple, le centre en termes de, là, où il y a le plus de, les interviews les plus complètes, les plus longues, et ainsi de suite. Les réseaux sociaux à côté seront, on va dire, avec des vidéos plus courtes, et sans forcément être plus virales, parce que c'est juste qu'on s'adapte à des environnements sociaux. Et voilà. Donc, en tout cas, ça a été 10 ans de créativité, de savoir comment on pouvait être en phase. Et c'était assez fou parce que les réseaux sociaux et le monde des réseaux sociaux faisaient que évoluer tout le temps. Ce qui était évidemment perturbant parce que ça voulait dire qu'on était dépendant d'eux, mais en même temps, il fallait aussi se dire que ça nous permettait de ne pas ronronner, quoi. De ne pas être toujours en phase avec les mêmes réseaux, les mêmes façons de faire, les mêmes approches. Ça nous permettait aussi de se dire qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qu'on peut mieux faire ensuite, et d'aborder d'autres sujets qui n'étaient jamais abordés. Par exemple, si je prends le cinéma, on abordait toujours le cinéma, en tout cas... il y a 10-15 ans, sur le côté comment est-ce qu'il a lu le scénario, les questions étaient toujours les mêmes, en fait. En tout cas, je considérais que c'était toujours les mêmes, et c'était toujours les mêmes approches. Et là, à travers des nouveaux formats, on pouvait aller vers appréhender à fond la cinéphilie d'une personnalité, appréhender à fond les souvenirs de tournage d'un cinéaste ou d'une actrice, et ainsi de suite. Donc c'était trop cool, on pouvait presque thématiser tout ça. Et ça, c'était vachement important. Et dans ce cadre-là, j'ai commencé du coup à faire des photos pour me souvenir, en fait. J'ai toujours fait un peu des photos quand j'étais petit. Et là, j'ai repris à Combini parce que c'est assez con, mais on voyait beaucoup de gens passer, des gens, des personnalités. Et il y avait un truc que j'ai toujours défendu à Combini, c'est on interview et on fait des interviews de gens qui nous passionnent. Donc forcément, on se trouve face à des gens dont on a vu le travail, dont on est fan, ou en tout cas, au minimum, dont on apprécie le talent, quoi. Et pour moi, prendre des photos à la fin des entretiens, c'était parfait. Enfin, c'était pas parfait, mais c'était le souvenir de ce que... C'était mettre une image sur une rencontre. Je me suis rendu compte, d'ailleurs, que progressivement... je me souviens mieux d'une interview et d'entretien si j'ai pris la photo de la personne. Donc ça, c'est marrant, mais je me souviens vraiment de détails très précis, quoi. À la fois parce que l'image dit quelque chose, et à la fois parce que dans un état de stress, notre cerveau, il c'est comme si, je sais pas, on sautait en parachute, notre cerveau, il fait que le temps ralentit, donc on comprend encore mieux ce qui se passe tout autour. Il y a des trucs qui pop-up sans qu'on le sache et qui nous reviennent 2 ans plus tard, quoi. Mais je me souviens de l'œil noir, du regard noir de Tarantino qui était hyper énervé. Et en fait, je me souviens juste qu'il était pas énervé contre moi, mais qu'il y avait toute une matinée où lui était vénère pour différentes raisons. Il présentait son film à Cannes, il était pas content, je pense, des retours. Je me souviens d'un Timothée Chalamet, je me souviens d'un Brad Pitt au Vidéoclub où il a fallu ruser pour pouvoir avoir la photo et qu'elle soit validée ensuite. Enfin, toutes ces photos-là, finalement, au départ, je le faisais par pur pour moi, et je le mettais un peu sur les réseaux, mais c'était avant tout, j'avais pas conscientisé le fait que ça allait devenir aussi, entre guillemets, que j'allais créer une espèce d'historicité avec ces portraits, quoi. Et alors que de base, et c'est peut-être ça le plus paradoxal, c'est que je faisais un peu ma photo à côté de manière complètement amateur, et j'aimais pas les portraits. Je me disais, putain, c'est chiant, les portraits, c'est de la mise en scène, on va pas droit au... ça va pas dire quelque chose de la personne parce qu'elle se met en scène. Et en fait, pas tant, parce que après réflexion, je me suis rendu compte aussi que les photos, je les faisais de manière... avec un avantage par rapport à des photographes qui font les portraits, c'est que d'une, j'ai déjà un contact avec la personne parce que j'ai fait une interview de 5, 10, 15 minutes ou jusqu'à une heure. Donc déjà que t'as un lien qui s'est fait, ils baissent la garde, ils sont en phase avec toi. Si en plus t'as bien fait ton travail, ils sont contents que t'aies un peu approché leur travail, leur filmographie de manière rigoureuse, et ils se disent, bon, bah, une photo à la fin, c'est pas la fin du monde, alors qu'ils auraient pu, pour certains, avoir une approche de l'image de soi, surtout quand c'est des acteurs, des actrices, l'image, elle est importante. Et donc, je me rends compte d'une que c'est quand je prends ces photos-là de ces personnalités-là après les interviews, je les prends dans un cas très précis qui est l'interview s'est bien passée, enfin, en tout cas, je l'espère, dans ma tête. Et il y a déjà un contact qui s'est fait, donc une facilité à les prendre en photo. Et il y a un côté un peu où je les prends de manière un peu random, quoi, au début en tout cas. C'est-à-dire, je travaille pas le. Il y a toujours un fond, parfois de couleur, qui est derrière la personnalité, parce que c'est un peu l'identité visuelle de Combini qui a toujours été mise en valeur via des fonds de couleur. Au début, je les prends à l'iPhone. Je me souviens que j'ai pris des photos d'iPhone de Steven Spielberg, et maintenant en y repensant, c'est complètement un peu con, quoi. Mais au début, c'est comme ça, je le fais sans y penser. Après, je mets des argentiques, je prends des petits Olympus argentiques 35 mm, tout ça. Et sans travailler progressivement, en fait, c'est de là où je commence à me dire c'est bien que ce soit des souvenirs, mais autant qu'ils soient un peu travaillés. Mais il faut pas non plus arriver à un truc où, après l'interview, je prends 5 minutes pour aller, entre guillemets, les emmerder, parce que j'avais qu'une peur, c'est que je les emmerde après avec mes photos. Je voulais que ce soit très court et qu'on garde l'intensité de l'interview et l'approche que j'avais eue avec eux, et qu'on garde cette naïveté, on va dire, quoi. Clairement, ça m'a appris à être efficace. Mais en fait, ce qui m'a surtout le plus appris, c'est qu'il faut avoir, je pense, un minimum de lien avec la personnalité en face. Et je ne parle pas de lien juste d'être à côté de lui à 5 mètres ou à 2 mètres ou à 1 mètre, on s'en fout. C'est plutôt d'être en phase, de savoir un peu qui c'est, quoi. Et c'est en ça, je pense, que quand on fait des portraits, je trouve que c'est devenu, en tout cas, important pour moi, c'est d'avoir un minimum de connaissances sur le parcours de la personne. Alors, soit je me renseigne avant, parce qu'on ne peut pas toujours avoir 5 minutes avant pour discuter avec la personne, pour savoir où elle en est, tout ça. Donc, c'est facilité si les gens sont des personnalités connues et il y a déjà un minimum de connaissances à avoir sur eux auxquelles on peut accéder. Soit j'ai fait quelques books de comédiens, d'acteurs, d'actrices, et on prend un café avant et je me renseigne et je crée un lien, je reviens à cette création de lien qui est hyper importante. Donc finalement, même si le temps que j'avais pour faire ces photos, je me contraignais vachement, j'aurais pu parfois avoir 5-10 minutes facilement, quoi. Parfois on avait des personnalités qui n'étaient pas dans l'urgence, qui pouvaient rester plus, mais je me disais aussi, parce que je ne les prévenais pas en fait, il y avait un truc où je ne les prévenais pas, où où même si pour moi c'était normal et tout, eux ils étaient pas au courant qu'à la fin il allait y avoir une petite session photo. Après ils s'en foutaient parce qu'ils s'étaient habitués d'arriver dans un média, t'es une personnalité, tu sais très bien que tu vas croiser des gens dans le média qui vont vouloir prendre des photos et c'est cool. Sauf qu'il faut pas non plus le faire, j'allais pas non plus avec 6 appareils photo, un truc un peu lourd, de manière un peu à les faire peur quoi. Il y avait cet enjeu je pense de retrouver un peu la même discussion, parce que ça c'était le truc que j'aimais bien mettre en avant dans mes interviews, c'était un truc de discussion où on oublie le plus possible l'environnement, les caméras, etc. Et on mettait en place un truc de ok, on est dans une zone de confort, on est chez la personne alors qu'on n'était pas, et on commence à discuter normalement quoi. Quand je commence à mettre en place ce système de photos à la fin des interviews, je le fais pendant des années. C'est-à-dire que c'est un petit bonus que je me donne après les interviews où j'ai une image et tout. Donc j'ai ce fameux souvenir donc je suis content d'avoir parce que ça concrétise un entretien, ça concrétise un moment de ma vie, etc. etc. J'ai pas tout de suite envie de me dire « Ah ok, j'arrête le journalisme, j'arrête mon métier ou j'arrête Combini pour aller me lancer en photo. » Ça vient progressivement. Parce que au bout d'un moment, en fait, je sens que c'est pas que je tourne en rond, c'est que je sais faire des interviews et je suis toujours très intéressé pour rencontrer des gens. Mais je me dis, ce serait bien de le faire en fait via les photos. Et ce dont je parlais avant, c'était le côté ce que j'aimais pas dans la photo de portrait, c'était le côté mise en scène. Mais ça, je me trompais en fait. En tout cas, moi, je pense que je me trompais là-dessus. C'est-à-dire que la façon dont on fait une photo avec une personnalité. Je me suis rendu compte progressivement qu'elle pouvait être de la même manière que de faire une interview. C'est-à-dire que le côté intéressant d'une interview, c'était un peu de faire de la psychologie de comptoir, mais c'était de trouver via des biais, des questions, et sans être dans la manipulation, mais de chercher, comme dans un petit labyrinthe, comment poser des questions parfois sensibles ou des questions un peu touchy à des acteurs, des actrices, des cinéastes, et sans forcément que ces questions touchy soient le centre de l'interview, mais parfois il fallait y passer, quoi. Et donc, il y avait parfois des petites stratégies à mettre en place. Par exemple, il y a un truc tout bête, mais tu vas pas, si tu as une question sensible, tu vas pas la mettre en premier, quoi. Sinon, la personne va se braquer, etc. Donc, ça, c'est des petits trucs qu'il fallait savoir et que tu mets progressivement en place. Et bref, je me suis rendu compte que les mêmes façons de faire en interview pouvaient aussi s'accorder au portrait. Et c'est là où je me dis, ah, ok, là, ça devient intéressant, en fait. Parce que la photo à la fin. Le but, en tout cas selon moi, pour d'autres ce sera autre chose, hein. Chacun a ses manières de faire aussi et chacun a ses résultats qu'il veut avoir quand il veut faire du portrait, c'est de dire quelque chose de la personnalité. Quand on fait une interview, on veut un peu toucher ou en tout cas réussir à comprendre qui est la personne en face et sortir un peu surtout de l'image médiatique qu'elle a conçue au fil de ses années de travail et de carrière. Et essayer de gratter un peu le vernis, quoi. Et la photo de portrait, c'est en tout cas un peu la même chose pour moi. Moi qui débute vraiment, là, je suis au tout début de cette réflexion, à essayer de trouver qui est la vraie personne derrière le petit vernis de présentation qu'elle fait. Il y a une photo que je fais de Vincent Lindon, et je la fais vraiment par hasard, et je comprends un truc après, c'est que je fais une photo de lui, qui est d'ailleurs pas très très jolie, tu vois, mais c'est juste une photo où on est à la fin d'une interview, Vincent Lindon déteste les images, et Bobby l'a déjà dit récemment, quand je crois qu'il l'avait fait au Festival de Cannes il y a 1 ou 2 ans. Sauf que moi, je suis en fin d'interview. Donc, je l'ai eu, je crois, pendant 1 heure. On a discuté et tout. C'était super intéressant. On parle de sa carrière, on parle de son enfance, tout ça. Donc, il y a des liens qui se font de manière, entre guillemets, naturelle, quoi. Et je fais des photos après. Et lui, il est gêné et tout. Enfin, il est gêné, il n'est pas gêné, mais il est un peu en mode... tu m'emmerdes un peu avec tes photos. Il ne le dit pas, mais je le ressens. Et en fait, la photo la plus intéressante que je fais de lui, c'est... lui qui était baissé et qui essaie un peu d'échapper, alors qu'il est toujours assis, et qui essaie d'échapper un peu à la mini-séance de photo que je suis en train de faire, quoi, mais elle dure même pas 30 secondes. En mode entre deux, ouais, exactement. Et ça fait partie des techniques de certains photographes portraitistes qui est de dire le mieux, c'est de les entre deux, justement. C'est les moments où la personne baisse sa garde et retrouve une certaine forme de naturalité et n'est plus en position de je suis un acteur, une actrice et je suis en promotion de mon film ou je sais pas quoi. Et donc ça, je comprends, mais ça, pour le coup, c'est comme tout. Hein, c'est avec de l'expérience qu'on comprend ces petits trucs. Et beaucoup appellent ça justement les petites interstices où se glisse enfin quelque chose de naturel et il n'y a plus de mise en scène, justement. Mais il faut du travail, il faut savoir un peu... Il faut savoir, entre guillemets, manipuler son sujet. Il faut savoir être en phase avec lui. En interview, souvent, il y a un truc intéressant, c'est le côté un peu caméléon. C'est-à-dire que si en face de toi, une personne commence à parler vite, il va falloir aussi parler vite. Si quelqu'un est un peu sur... avec un langage un peu lent et tout, il faut essayer d'être en phase avec ça, histoire d'être en phase. On dit souvent que deux personnes qui ont les mêmes façons de se tenir, c'est souvent parce que l'un veut être en phase de l'autre, ou peut-être que l'autre aussi d'ailleurs. Par mimétisme, on est un peu plus en phase. Et je trouve qu'il y a ce côté-là qui peut aussi se mettre en place en photo, quoi. Mais même si c'est un peu différent comme exercice, mais je peux en faire des liens, quoi. Et donc bref, c'est comme ça en tout cas que je me dis, ok, c'est intéressant. Le portrait, c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'ai envie de développer. Et au bout de 10 ans de Combini, je me dis aussi un truc, c'est que je pense que pour se lancer dans la photographie, il ne faut pas non plus commencer trop tard. Juste sur la question de l'énergie et de ce qu'on veut mettre comme temps et tout, je ne peux pas commencer à 50 ans la photographie comme ça. Et je me dis aussi, je vais toujours continuer à être journaliste sur le côté, mais pour me lancer à fond dans la photographie, il faut absolument que je mette du temps dedans, quoi. La principale difficulté, et comme beaucoup, je pense, qui ont fait des transitions de CDI à freelance, c'est la sécurité. C'est toujours le principal frein à des ambitions indépendantes, c'est de se dire, ok, il faut quand même être un peu fou pour se dire, ok, je vais quitter le confort de mon CDI. Et en plus, j'avais un boulot à Combini qui était quand même très cool, qui était de rencontrer des personnalités. C'est quand même le job dont je rêvais quand j'avais mon blog à Londres, qui était exactement l'incarnation de mon job à Londres, mais version payée. Et de se dire, je me barre de cet endroit que je connais très bien maintenant. J'ai fait 10 ans, j'ai mon réseau à ce niveau-là, et je vais le quitter pour faire de la photo sans trop savoir vers quoi je vais, quoi. Parce que oui, je voulais faire un peu de portrait, mais je voulais pas faire que ça non plus. J'avais envie de faire du documentaire, du reportage déjà, sans trop savoir où aller aussi, parce que je pense je trouve qu'il y a on peut assez vite trouver son langage et sa manière de faire et son style en journalisme, que ce soit à l'écriture, en interview et tout. En photo, c'est pas pareil. En photo, ça prend beaucoup beaucoup de temps. Je trouve beaucoup beaucoup de travail, de lecture, d'images, de culture à développer et ainsi de suite, quoi. Les gens de la photo, et j'y réfléchis ici, les gens qui sont dans la photo, qui sont indépendants depuis le début, qui ont fait une école de photo et qui sortent et tout, qui travaillent pour des médias, ils n'ont jamais finalement connu ça parce qu'ils savent très bien que ce milieu-là, il est soumis aux règles de l'indépendance. C'est comme ça. Les gens qui sont en CDI et qui partent vers l'indépendance, il y a évidemment des inconvénients et des avantages de chaque côté, hein. C'est pas comme si c'était le paradis d'être indépendant ou le paradis d'être en CDI, quoi. Mais il y a un truc de, il faut que son cerveau, il faut le remettre, faut un peu le rebooter pour l'habituer en fait à se dire, en fait, c'est normal, quoi. Il y a pas la sécurité, elle peut être un peu factice. Elle l'est pas parce que évidemment un salaire qui tombe tous les mois, etc. Donc c'est une forme de zone de confort qui est confortable évidemment, mais je mets du temps en fait à dépasser ça. Alors que oui, comme tu le disais, j'aime beaucoup les challenges, mais je sentais que le challenge de Combini, en tout cas pour ma part, et je sais qu'après d'autres personnes qui sont arrivées à Combini ont des nouveaux challenges à mettre en place, pour différentes raisons et différentes ambitions. Mais moi, il était un peu arrivé à son terme et je voyais la photo comme un échappatoire en me disant « Ok, c'est maintenant ou jamais. » Mais je pense que j'ai au moins mis 3 ans avant de prendre la décision et de me dire « Ok, on se lance, c'est bon, on peut y aller, quoi. » Mon tout premier, finalement, rapport à l'image. Je dis image parce qu'avant, il est autant du côté image fixe qu'image animée, c'est-à-dire autant des films que de la photo. Il vient, je pense, dans un premier temps, de la télé ou du cinéma. Ça me paraît évident. Je pense qu'il y a un truc qui m'a amené à être fan de la photo et de l'image en général. C'est le fait que quand je suis gamin, donc on est 4 frères et sœurs, on n'a pas de télé. Enfin, on a une télé, en fait, une petite télé portative qu'on peut amener... ici et là, mais à des moments très ritualisés, c'est le vendredi soir, c'est le week-end, etc. En semaine, il n'y a pas d'image, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas d'image, il y a des images évidemment, mais on les voit beaucoup moins, je pense, qu'à l'accoutumée. Et en face de ça, j'ai mon grand-père qui est un grand fan de cinéma, qui a un grenier qui fait, je sais pas, 50 mètres carrés, et qui l'a organisé avec des étagères, avec, je sais pas, je dirais... je sais pas si peut-être je vais dire une bêtise, mais 500, c'est pas au moins 500 films quoi, qui sont tous rangés, qu'il a enregistrés sur son caméscope avec des VHS et tout à l'ancienne. Après, il se tournera vers les DVD. Et bref, tout est rangé, c'est millimétré, c'est par genre. T'as des espèces d'étiquettes avec l'année de production du film, le cinéaste, les acteurs et tout. Bref, tout ça, quoi. Donc du coup, certains week-ends, on passait pas mal de week-ends chez nos grands-parents. Il y avait ce truc où t'arrives dans une caverne d'Ali Baba, de l'image, vraiment, du cinéma, de films, d'histoire visuelle, parce qu'évidemment, on lisait pas mal, parce qu'il n'y avait pas de télé à la maison, quoi. Ou c'est libre-service, quoi. Et évidemment, t'avais des films qu'on n'avait pas le droit de voir, et on savait, quoi. Si je me souviens bien, je crois qu'il y avait même sur les étiquettes les interdits moins de 12 ou interdits moins de 16 ans. Et donc, il y avait un truc de... Comme tout, on veut braver les interdits, on est des enfants et tout. Donc, je me souviens très bien de quand j'ai vu Pulp Fiction. J'ai 11 ans, et je crois que c'est un après-midi l'été, et tu comprends pas ce qui vient de se passer, en fait. C'est pas le plus violent des films, t'as quand même des scènes qui sont assez marquantes. Et donc, il y a cette espèce d'équilibre entre à la maison, pas trop d'images, même si parfois on va au cinéma et j'ai des films qui me marquent. Hein. Et de l'autre côté, la caverne d'Ali Baba du cinéma chez mon grand-père. Et au milieu de ça, les premiers rapports à l'image photo, c'est les albums de famille. Ça paraît vraiment convenu comme truc, mais c'est vraiment un truc hyper important chez mes parents d'avoir chaque enfant de la famille, donc mes trois frères et sœurs et moi, on a notre album photo. Enfin, c'est même pas un album, je crois qu'on a 5-6 albums photos différents pour chacun de nous. Avec l'évolution de 0 jusqu'à, je sais pas, 10 à 18 ans facilement, quoi. Donc t'as tout ça qui est mis en place, et tu peux du coup presque revenir sur ta vie comme ça, comme si on avait un album photo Facebook, sauf que là c'est physique. Et il y a ce côté où, voilà, ça marque, je pense, quelque chose, où c'est la photo et le cœur de ton histoire, quoi, ou de l'histoire des autres. Et ça marque un peu les années, et c'est primordial d'avoir des images de ta vie et de ce que tu racontes, ou même des personnes qui t'entourent, évidemment, pas que de toi. Si c'est juste un travail égocentrique, c'est pas intéressant. Donc il y a ça qui marque, et aussi en même temps, ma famille n'a pas des personnes qui sont des artistes ou qui viennent pas de milieu artistique du tout. Même si j'ai découvert que mon arrière-grand-mère faisait déjà des photos Leica au Maghreb il y a des décennies de ça. Je découvre des photos là récemment, et des photos trop belles. Mais il y a aussi un côté, ils filment tous, enfin, mais notamment du côté des pères. Ils filment avec des caméras de 8, de 16 mm, là encore du caméra H8 et maintenant du numérique, quoi. Et là aussi, c'est encore une preuve que l'image est hyper importante, et il y a un peu un côté, pas sacré, parce qu'il ne faut pas non plus déconner, faut pas exagérer, mais un côté important, c'est-à-dire on se mate des films, on voit parfois même des diapos pour retranscrire des vacances, et ça passe par là. Et donc quand j'ai mon premier appareil photo argentique, que me prête mon père, c'est un Nikon F3, et qu'on fait un voyage aux États-Unis, et que je vois les résultats concrètement dans mes mains, et c'est marrant parce que je prends quelques photos de famille, mais je vais pas non plus faire... je suis pas là pour ça. Enfin, je suis pas là pour ça. C'est pas que je suis pas là pour ça, mais comment dire. Je fais des photos de paysages, quoi. Je vois les États-Unis, je suis émerveillé. Je vois des paysages que j'ai jamais vus de ma vie. J'ai 13-14 ans et je fais des photos et je vois les résultats sur les diapos. On les projette sur un mur blanc, je pense. Et je trouve ça ouf de voir le résultat. Et je me souviens juste que mon père m'a dit, bon, ben, les réglages basiques, c'est tu mets 200... Enfin, c'est des pellicules de 200 ISO. Tu dois mettre... vitesse 125-250 et tu voilà quoi, c'est pas plus que ça. De toute façon, la lumière est toujours la même presque aux États-Unis, à part s'il fait moche, et tu t'en tiens à ça et ça suffit, ça passera largement, quoi. Et je fais ça, et du coup les photos sont pas extraordinaires, mais ça me marque. Et je pense que c'est un truc que je veux récupérer quand je prends la décision ensuite de quitter Combini 15 ans plus tard, peut-être un truc comme ça. J'ai ça en tête, je me dis, ah putain, j'ai toujours ce lien avec la photo argentique en plus. Dans un premier temps, en fait, mon approche photographique, c'était juste d'aller dans plein de domaines différents et d'essayer de voir, de prendre le plus de compétences possible. Maintenant, ça fait un an et demi, et c'est pas assez court, hein, comme temps, évidemment, par rapport à l'évolution dans la photo, mais c'est d'avoir une approche, de revenir un peu à une approche plus documentaire, journalistique, pour raconter des histoires. Ça, c'est le truc que j'ai vraiment envie de développer, c'est de raconter des histoires. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut passer évidemment par du portrait, ce que j'ai vachement développé depuis que j'ai quitté Combini, en tout cas que j'ai continué à développer, c'est toujours un truc qui m'intéresse. Mais à côté de ça, c'est de raconter aussi des histoires dans un cadre où on voit plus l'environnement, où on sort un peu plus de la personne du portrait, on va dire, classique, un peu proche du visage, et d'avoir un peu plus de contexte, finalement. Et ça, ça revient un peu à la photo que je décrivais tout à l'heure, celle qui était au Liban. C'est que je pense que cette photo, elle est importante parce que je l'ai fait moins d'un an après avoir quitté Combini. Je l'ai fait parce que je ne vais pas au Liban pour forcément avoir une idée très précise de ce que je vais faire là-bas. J'ai la possibilité d'y aller, d'y rester une semaine, 10 jours. Je prends plein de pellicules, évidemment. Je prends un appareil photo et je ne sais pas ce que je vais y trouver, quoi. Je me renseigne évidemment vachement sur le pays. Ça, c'est sûr. Mais comme d'ailleurs je le fais pour des personnalités, je trouve ça hyper important pour moi d'avoir un minimum de bagages culturels sur où est-ce que je vais. Et je pense que c'est toujours une bonne base d'avoir ce bagage-là pour pouvoir réagir à l'instinct, peut-être de manière inconsciente sur des situations, et qu'après, il y a quelque chose qui en ressort, quoi. Donc, je fais les photos pendant toute la semaine et j'en ressors avec un... Je ne sais pas si les photos valent grand-chose, mais je me dis qu'elles ont du sens pour moi par rapport à un pays qui est hyper morcelé entre plus d'une dizaine de communautés, plusieurs quartiers, je pense à Beyrouth, qui sont scindés en fonction des religions, des appartenances religieuses. Et je sens, moi, c'est un sujet qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est la mélancolie. C'est un truc qui m'a toujours intéressé. Et quand je pense à ça, d'ailleurs, je pense à quand j'ai découvert Dave East. Donc ça, je l'avais découvert au Bal il y a quelques années en exposition. Et j'étais en... Ah putain, ça me parle trop de voir des gens, des visages et tout, en noir et blanc... des gens qui sont pris en photo par Dave East, avec juste, tu sens qu'ils ont, pas forcément une mélancolie, mais tu sens qu'ils ont un énorme, ils ont quelque chose en tête, quoi. Et c'est à toi un peu d'y mettre ce que tu veux, quoi. C'est ça qui est génial avec ces photos-là, c'est qu'il y a tellement de mystères que tu peux, il y a que des questions, il n'y a aucune réponse, quoi. Et je sens la même chose avec le Liban, et où je me dis, mais je le sens, mais c'est assez facile à le deviner. C'est un pays qui est tellement trituré de toutes parts, qui est au beau milieu d'un théâtre de guerre multiple depuis 20, 30, 40, 50 ans, que je m'attelle en fait à essayer de faire des photos qui rendent compte un peu de ça, quoi. Soit de personnes seules, soit de détails de la guerre, mais après je sens que je suis pas en train d'inventer l'eau chaude, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui est hyper basique, donc je l'ai fait à l'instinct, je fais ces photos là et j'essaie de, et à la fin je me rends compte que peut-être ça pourrait faire quelque chose, mais surtout que ça a surtout besoin d'une suite photographique, d'une suite de liens avec ce pays, sans forcément en faire un projet sur 10 ans, mais de donner une suite parce que c'est inabouti. Et c'est là où ça marque quelque chose d'important pour moi, c'est de me dire, ok, en fait, il faut que j'aille vers des sujets qui me tiennent à cœur. Et parfois, ils peuvent me tenir à cœur, mais sans que je m'y attende, quoi. Le Liban, c'était pas du tout un pays que je connaissais particulièrement avant d'y aller à l'improviste, presque il y a bientôt un an, quoi. Mon rapport à la photographie, là, actuellement, c'est d'essayer le plus possible de raconter des histoires qui soient réelles. Et ce qui est paradoxal et intéressant, c'est que j'ai l'impression de le faire presque en contradiction avec ce que j'ai raconté pendant 10 ans où j'étais journaliste cinéma à Combini. C'est-à-dire un milieu où on raconte des histoires qui peut-être ont du lien avec la société, et j'en suis même sûr, mais qui sont des histoires fictives, quoi. Je me suis retrouvé sur des... J'ai fait de la photographie de plateau... Et c'était génial parce que je voyais un peu les dessous, les coulisses du cinéma. Donc c'est la photographie de plateau. Rapidement, ça consiste à prendre des photos, à la fois un peu, pour certains, de making-of, un peu, on fait un peu les behind the scenes de ce qui se passe, mais aussi ça peut être des photos qui peuvent être des photos presse du film, et même jusqu'à devenir une affiche, si la photo est cool. Et je suis face à des productions, mais je le sais depuis 10 ans, hein, mais c'est juste que là, je le vois vraiment, où on met de l'argent et du temps pendant des semaines et des semaines, sur des trucs qui n'existent pas, quoi, sur des histoires racontées, des histoires inventées d'elles-mêmes, quoi. Et je suis face à un truc où je me dis, putain, mais ça m'intéresse évidemment, c'est le sujet sur lequel j'ai bossé pendant 10 ans, donc c'est normal, mais ça me dérange un peu. Je suis troublé par ce truc-là de voir qu'on peut mettre autant d'énergie dans des choses fictives, et je sais à quel point c'est important. C'est pas moi qui serai le dernier, enfin je serai le premier, pardon, à faire la défense de la culture et de l'intérêt de la culture, d'avoir des récits, etc., et de raconter la société. Mais ça me met un truc en mode, ah, mais il faudrait que l'idée de raconter des histoires vraies, Y a une demande aussi, il y a quelque chose d'important, raconter un peu ce qu'on témoignait, tout simplement. Le cinéma et la photo ont en lien la subjectivité de la personne qui cadre la photo, ou qui cadre même le film, enfin le réalisateur du coup. Mais la grande différence, c'est que, on en revient toujours un peu à tout à l'heure, c'est qu'il y a, tu peux ne pas mettre en scène. C'est-à-dire que la mise en scène, elle peut casser, elle peut mettre aussi des spontanéités, mais et c'est le jeu d'ailleurs des metteurs en scène, c'est de créer des spontanéités avec des acteurs et de préparer les acteurs à ça. Mais c'est qu'on ne peut pas trop, même s'il y a subjectivité à la photo, on est quand même dans quelque chose de la spontanéité de la vie. La photo du Liban, elle aurait 100 fois moins d'importance, donc celle dont je parlais au tout début du podcast, elle a 100 fois moins d'importance si elle était mise en scène. Elle n'aurait pas de sens même. Peut-être qu'elle aurait du sens pour moi parce que c'est l'image que j'ai du Liban, mais je la trouverais grossière, au sens où c'est l'image que je me ferais du Liban, je la mettrais en scène, et ce serait même arrogant de faire une mise en scène pour dire quelque chose d'un pays. Je fais la photo et j'y trouve mon sens et du sens. Ce ne sera pas le sens qui sera partagé par tout le monde, parce que chacun peut-être y mettra un peu de sa vie, de son parcours, de son éducation, de sa vision du Liban, ou même de sa vision d'autres pays, parce que en fait ça pourrait être une photo, on sait même pas où elle a été prise finalement. Elle aurait pu être prise près de Perpignan. On a aussi une très belle côte avec la mer et la montagne, donc ça aurait pu être n'importe où ailleurs qu'au Liban. Mais c'est ça la grande différence, c'est que je joue pas en fait avec la réalité. Quand je prends la photo, oui, le choix du Liban c'est subjectif, le choix du cadre c'est subjectif, le choix de prendre ce mec là qui par hasard émerge sur cette colline, c'est hyper subjectif, c'est moi qui le fais. Mais je joue pas avec ce type-là, quoi. Ce type-là, il est là, en fait. Donc je suis quand même dépendant d'une chose. Quand on est photographe, on n'est pas Dieu. Quand on est réalisateur, on peut être un peu Dieu. On peut adorer, et c'est ça le métier aussi, hein, de réalisateur. On a des marionnettes, on sait ce qu'on va en faire. Ils ont des dialogues, on a un chef-op qui est là pour mettre en lumière ces marionnettes, etc. Je veux pas être méchant par rapport aux acteurs et aux actrices, hein. C'est pas des marionnettes, mais il y a quelque chose de... Quand on est photographe, on n'est pas omniscient, quoi. La grande question que je me posais, peut-être que certains se la posent quand ils se lancent dans un nouveau métier, une nouvelle formation, un nouveau truc, je me disais, putain, je mettais 2% de mon temps quand j'étais accompagné à faire la photo, c'est-à-dire les week-ends, les temps libres et tout, donc c'est-à-dire rien du tout. Et je parle de faire la photo, mais autant que s'intéresser à la photo, à la culture et tout. Et la question que je me posais avant de quitter, de me lancer dans la photo à 100%, c'était est-ce que je vais être aussi passionné par la photo quand je vais être vraiment à 100% dedans? Est-ce que je vais pas m'en dégoûter, tu vois? Est-ce qu'il va y avoir un truc de... Comme ça devient quelque chose de professionnel, est-ce que ça va le désacraliser? Et en fait, très vite, je me rends compte que non. C'est comme si, quand j'étais à Combini, avant de me lancer en photo, c'est comme si je me disais que c'était une toute petite frontière, c'était une petite niche, la photo, et que ce serait facilement contrôlable ou compréhensible. Enfin, tu vois, que j'aurais facilement une capacité à le maîtriser, alors que, en fait, non, pas du tout. Je débarque et les 100%, ils se remplissent très vite de plein de livres à lire, plein de choses dont il faut se renseigner, une très bonne pratique de la photo régulièrement, de la street photo, mais du portrait, même s'il n'y a pas de mission, mais du coup, il faut se créer des propres missions pour, et ainsi de suite. Et ça, je me rends compte très vite, je ne me dégoûte pas du tout, au contraire, le champ s'élargit, mais énormément, en termes de tout, en termes de pratique. Il y a même un truc de « est-ce que je vais y arriver ?» parce que c'est tellement grand comme terrain de jeu qu'on se pose la question de « où est-ce que je vais me placer aussi ?» Si on fait la métaphore du terrain de jeu et du foot, on se dit mais à quelle position je vais être, c'est-à-dire est-ce que je vais vers la street photo en noir et blanc, est-ce que je vais faire du portrait à la Christopher Anderson, enfin tout vite, très vite il y a un truc de référence qui est hyper important et qui peut vachement faire peur, en tout cas moi c'est cette impression là. Il faut vite, je pense, l'amener à soi et le pratiquer la photo pour voir ce qui peut nous plaire. Et parmi les projets qui m'ont mis sur la piste de ce que je voulais faire, et donc le rapport à la photo documentaire, journalistique, de la photo entre guillemets qui a du sens, même si pour moi toutes les photos ont du sens, hein, c'était le travail avec Hakim Jemili. Donc grâce à Laura Felpin, que je prends en photo quelques mois avant, je suis amené à photographier Hakim en Tunisie pendant le mois d'août 2023. L'idée globale du projet, c'est de faire l'affiche de son nouveau spectacle qui s'appelle Fatigué. On ne sait pas trop s'il s'appelle encore Fatigué. On me dit en tout cas que ce sera une possibilité qu'il s'appelle comme ça. Donc déjà, Fatigué, c'est déjà un mot d'ordre. Et je trouve un intérêt tout de suite, évidemment, au projet. Je suis trop content. D'une, je suis déjà allé en Tunisie, mais jamais du côté de Bizerte. Et je me rends compte en plus que ma famille y habitait à une époque. Donc je trouve ça trop marrant. Et de deux, il y a ce côté, il faut trouver une image en lien avec un spectacle qui raconte l'histoire d'un mec qui est pris entre deux identités culturelles qui sont la Tunisie et la France, pour faire grossièrement, quoi. Donc il y a un intérêt presque de raconter une histoire qui raconte aussi de manière universelle le destin de millions de personnes en France. L'objectif, évidemment, donc, c'est l'affiche de spectacle, et la possibilité de réussir à faire ça, c'est de prendre une journée entière avec Hakim, et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a réussi à faire, et de le shooter dans Bizerte, là où il nous amène. En gros, Hakim devient notre guide pendant toute une journée de sa ville qu'il connaît par cœur, en tout cas c'est la ville d'origine de sa famille, et il nous amène dans plein de dédales, dans les médinas, dans les vieux quartiers de Bizerte, il nous amène même à la mer, il nous amène au quartier de sa famille, on mange un sandwich, j'ai oublié le nom, mais un sandwich typique de Bizerte, et on fait tous ces trucs avec, moi je suis avec un numérique, un Q2 si je dis pas de bêtises, un Leica et un moyen format, un Mamiya. Un des objectifs aussi, c'est quand même de faire une photo à l'argentique. Ça, c'était un truc qui faisait partie un peu du cahier des charges. En tout cas, c'est une volonté de faire de l'argentique. Et donc moi, je me dis, ok, mais il faut quand même que je backup. Enfin, c'est toujours le grand frisson d'être photographe et de faire ça à l'argentique. C'est que t'as toujours une peur, surtout quand t'es à l'étranger, c'est que tes films ils soient détruits à cause des aéroports, tout simplement, quoi. Donc il faut backupper. Et même si la journée d'avant, on fait du repérage, moi, je connais pas Hakim, c'est la première fois que je le rencontre en vrai. Et il a une énergie folle, et il faut le suivre, et il faut réussir à le faire poser, il faut réussir à ce qu'il soit en phase aussi avec la possible affiche qu'on est en train de faire. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est à l'opposé de tous ces shootings pubs où tout est organisé, et c'est compréhensible, hein. Il faut qu'il y ait un mood board. Et moi, j'avais un mood board, évidemment, pour Hakim, mais des trucs, on va faire ça là, à telle heure, on va faire ça là, à telle heure, et ainsi de suite. Et là, moi, je suis avec une pile électrique qui s'appelle Hakim, et je dois le suivre, et je dois parfois lui dire, ok, là, trop bien, c'est une super idée, on reste ici à cet endroit. Donc, il y a cette photo, par exemple, c'est une des premières que je fais. On est, je sais plus si elle s'appelle comme ça, mais pour moi, c'est la place de l'horloge, c'est une place, un rond-point. Il y a des voitures qui passent devant de manière incessante. On est le matin, il fait, je sais pas, il doit faire 35 degrés déjà, il est 10h du matin et on se dit il faut vite qu'on trouve des endroits après autour de midi pour être à l'ombre. Et bref, sur cette place de l'horloge, il y a cette photo où on voit Hakim, où il est posé, c'est-à-dire qu'il m'avait dit dès le début on va aller à la place de l'horloge et c'est là qu'on va faire cette photo. Et je lui dis bah pas de soucis, mais je sais même pas ce que c'est que la place de l'horloge, mais allons-y. Il se met devant l'horloge et je me souviens que je suis au Mamiya, je fais que des photos de Mamiya. Il y a des moments parfois en photo où on sait même plus ce qu'on fait. C'est-à-dire que je me rends compte qu'après je suis en mode merde, j'ai pas backupé, j'ai pas fait de photo numérique. Je suis un peu en mode putain, j'ai pas été assez sérieux, quoi. Mais c'est juste que je me rends compte aussi après que on a passé 10 heures non-stop à le suivre et être toujours attentif à le moindre de ses pas, au moindre des environnements qui pouvaient être intéressants en photo. Donc il y a cette photo de lui qui est devant une horloge, posée, t'as des voitures qui passent et on prend cette photo comme ça, quoi. Elle dit exactement la journée qu'on a passée avec cette montre qui tourne là, qui tourne de manière complètement, qui tourne de manière hyper rapide. Et toujours la question qu'on se pose pendant cette journée-là, c'est est-ce qu'on l'a ? Est-ce qu'on a la bonne et tout ? Et je me souviens qu'on fait des photos et j'en fais pas mal à un moment donné parce qu'on les fait dans l'eau. Et donc c'est des photos numériques. Je ramène pas le Mamiya dans l'eau parce que je me dis j'ai trop peur. Mais je suis quand même aussi assez con pour ramener un Leica à deux pas de le mettre dans l'eau, quoi. Vraiment, faut être débile, quoi. Je le fais avec le Q2 et les photos sont sympas et tout. Et Hakim me dit, ouais, c'est celle-là et tout. Et moi, je suis en mode, bah, trop bien, trop cool. Donc, le premier envoi que je fais, c'est les photos Q2. Et je fais le deuxième envoi, c'est les photos Mamiya argentique. Et c'est là où il se trouve cette fameuse photo qui fera l'affiche. Enfin, fameuse pour moi. Hein. pas pour les gens, ou au hasard du repérage de la veille, on était tombé sur un hammam qui était ouvert et on s'était dit, bon, ça peut être marrant de ramener Hakim dans un hammam. En tout cas, là, c'était un peu l'entrée du hammam. Et déjà qu'il faisait chaud le jour où on a fait le shooting à Bizerte, mais dans le hammam, accouplé à l'humidité du hammam, c'était n'importe quoi. Donc il y a cette photo où il est comme ça, un peu blasé, fatigué, avec des gouttes d'eau qui... Enfin, il sue du front, mais c'est normal, on est dans un hammam. Plus la chaleur de Bizerte, et ça a fait l'affiche, quoi. Mais ça résumait parfaitement ce que je voulais, c'est-à-dire avoir une mission qui vient pas de moi, mais pour un sujet aussi intéressant que mettre en image... quelque chose d'intéressant en termes de parcours et d'identité culturelle que celle d'Hakim, je trouvais ça méga intéressant. Et je trouvais ça trop cool de pas avoir en conséquence un processus trop strict et d'avoir un truc de « ok, on va improviser ». Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Le sens collectif en photo, c'est hyper important. C'est-à-dire que... Enfin, je le trouve encore plus important au regard de mon parcours à Combini, où j'ai passé 10 ans à être au sein d'une rédaction, à toujours discuter, à toujours échanger, communiquer avec des journalistes sur des films, sur des angles, sur des manières et tout, d'arriver à faire la meilleure interview possible, à faire le meilleur montage possible. Enfin, toutes les strates qu'on peut imaginer dans une rédaction, du... secrétaire de rédaction, le monteur, le journaliste, enfin tout le monde, le cadreur aussi, savoir raconter en image. En photo, quand on débarque en photo, en freelance, on est vite seul, surtout au début, évidemment, parce qu'on n'a pas 1000 contacts qui tombent sous la main. Donc on perd vite en... Comment dire ? Ça devient un peu un manque de ne plus avoir... finalement des gens autour de soi pour avoir du recul par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand dans une rédaction on fait un sujet, on peut vite avoir le regard de son rédacteur en chef, le regard de sa secrétaire de rédaction, le regard de son directeur de publication, on peut avoir plein de regards différents, du monteur qui monte ta vidéo que tu as faite en interview, etc., etc. Ça rassure de fou, ça rassure énormément, et surtout ça donne un autre regard en fait. Au-delà d'être rassuré, on est en mode, encore une fois, on n'a jamais la vérité. Et c'est ça qu'il faut, ça qui est hyper important, en tout cas dans ces métiers de la artistique ou culturelle, hein, qui sont en lien avec la culture, c'est qu'on n'a pas de regard. On peut être, avoir de l'expérience et se dire ça, c'est ça qui va marcher. Même si j'ai bien appris un truc en photo ou même surtout en journalisme, c'est qu'on ne sait jamais pourquoi un sujet va vraiment intéresser les personnes. On ne sait pas du tout pourquoi un sujet va plus intéresser 1 million de personnes plutôt qu'un sujet qui va intéresser 100 personnes. Parfois ça marche et on ne sait pas pourquoi. Et je trouve qu'avoir des regards, en tout cas, autour de soi, dans la création, dans le processus de production, c'est hyper important. Le problème, c'est que quand on est photographe, en fait, on est maître de tous ces processus de production. On est maître de sa retouche, on est maître évidemment de son cadre, on est maître de sa relation avec le talent en face qu'on va photographier ou du reportage qu'on va faire. Donc, il faut vite très bien s'entourer. Et au-delà de s'entourer pour faire du commercial et avoir quelqu'un qui fasse l'assistant digital ou qui fasse l'assistant lumière, etc., c'est pas tellement ça, en fait. C'est surtout avoir des proches, des gens avec qui on discute souvent pour avoir d'autres approches. Et pas seulement d'ailleurs des gens de la photo. Ce que je trouve intéressant avec la photographie, c'est que comme c'est un art à part entière, il a aussi été, lui, en tant qu'art... Il a été inspiré par d'autres arts, la peinture, le cinéma, etc., même la musique. Donc c'est toujours bon aussi d'avoir c'est toujours très, même très intéressant, au-delà d'avoir des potes photographes, d'avoir des personnalités qui vont t'inspirer parce que c'est des peintres et ils vont avoir un regard hyper graphique ou un regard sur l'équilibre des formes et des personnages d'un sujet de ta photo. Enfin, toujours discuter et ça, il faut le mettre en place. Ça, il faut le mettre en place, ce côté collectif, un peu autour de soi. Il ne faut pas le créer de manière... On ne peut pas le créer. Il ne faut surtout pas le créer de manière à la dure, c'est-à-dire se forcer à le faire. Il faut que ça devienne naturellement et ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que la difficulté en photo au tout début, c'est qu'on est un peu seul, ouais. On est un peu seul. Ça met du temps ensuite à s'organiser et à ce qu'on crée ce petit cercle autour de soi qui va nous permettre aussi de s'améliorer, quoi. Le premier truc qu'on fait... enfin, si on peut le faire en tout cas, le mieux c'est de faire ça, c'est de montrer à des personnes qui s'y connaissent en photo ou en d'autres arts ce qu'ils pensent d'une nouvelle série, je sais pas, d'une nouvelle série, d'un livre photo qu'on a fait, etc. Quoi. Ça a du sens d'avoir ces regards-là parce qu'on n'est pas, encore une fois, on n'est pas à 100%. On n'est pas comme certaines entreprises qui sont à 360, qui sont bons dans plein de choses. Photographe, on peut être bon, évidemment, on peut avoir des spécialités de cadrage et tout, mais on ne sera jamais à 100%, en tout cas, surtout là, me concernant, parce que je débute à peine, expert de tous les processus de production. Et le dernier processus de production que je commence petit à petit à aimer, d'ailleurs, c'est le recul. C'est le dernier processus, c'est celui qui prend le plus de temps, évidemment. Et au début, je me souviens, quand j'étais à Combini et tout, je faisais des portraits, je les shootais, je les retouchais en 2 secondes. Maintenant, il m'arrive de mettre 1 an sur des photos perso, donc où il n'y a pas d'enjeu de deadline et tout, à mettre 1 an avant de les mettre sur Instagram ou sur mon site, quoi. Et ça me fait tellement du bien, enfin ça me fait du bien au sens où j'ai fait beaucoup de choses, j'ai testé plein de choses pendant des mois et des mois, et à la fin j'ai trouvé le truc. Et je trouve que comme on peut avoir une approche avant de faire une photo, d'un portrait par exemple, ou d'un reportage, de se renseigner, j'ai l'impression qu'il y a un peu en post-prod, en retouche, on se renseigne un peu sur la photo pour savoir à quel point elle peut être retouchée ou pas dans un sens. Donc c'est comme si on avait une approche un peu d'intimité avec sa photo qu'on a choisie au préalable, qu'on se disait « Ok, on va la retoucher de cette manière-là. Ça marche pas, bon, on la met de côté et on repart et on revient dessus et ainsi de suite jusqu'à trouver la bonne approche pour être en phase avec un mood d'une série de 10 photos ou de 15 ou même d'une seule photo peut-être. Et je trouve vachement de plaisir à faire ça. À prendre le temps, ça me paraît tellement évident. Je me souviens d'un Depardon qui parlait de ses photos et qui disait, à la question de savoir comment il faisait pour les choisir, il disait, bah en fait, bah, je les imprime, je les mets à l'envers, je les scotche dans mes toilettes, comme ça, quand je suis en train d'être aux toilettes, bah, je les vois et parfois je les mets à l'envers aussi. Et en fait, tu comprends que tout le monde fait ça, quoi. Tout le monde essaie d'avoir le plus de recul possible. Chacun a ses techniques. La difficulté, c'est que bon, je vais pas imprimer non plus faire du tirage de toutes mes photos tout le temps. Mais j'avoue que ça fait du bien de les avoir déjà physiquement. D'avoir physiquement pour quand on fait un choix d'une série photo et tout, c'est cool. C'est flagrant comment c'est indispensable dans le processus pour savoir où est-ce qu'on va, quoi, en termes de photos et pour avoir un minimum de recul. Par rapport à ce que j'ai envie d'entreprendre en photographie, le principal pour moi, c'est ce que j'essaie de me dire de manière quotidienne, c'est de prendre son temps. Je sais très bien que je ne vais pas trouver le sujet qui va m'emporter ou qui va être le sujet de ma vie, parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, je sais que la photo, ça prend du temps à se mettre en place. Quoi qu'il arrive, ça prend du temps. Ça prend du temps à savoir les couleurs qu'on veut, ça prend du temps les sujets qu'on veut. Donc, je suis assez optimiste par rapport à ça. Je sais que ça peut prendre du temps et ça ne me fait pas peur, en fait, surtout. Il n'y a pas de notion de... J'ai 5 ans de retard par rapport à quiconque. J'ai 36 ans et je pourrais me dire... est-ce que je suis trop vieux pour ce milieu qui est déjà... où je vois des jeunes qui ont 20 ans et qui sont trop forts en photo. Mais je pense que le premier truc, c'est de ne pas se comparer. Donc ça, c'est vraiment un truc que je mets en place depuis toujours, même en journalisme. Je n'ai jamais essayé de me comparer. Et c'est bien aussi pour se différencier. Et deuxièmement, encore une fois, c'est de se dire « Ok, j'ai du temps devant moi. Et ce temps-là va être opportun pour développer mes photos et ce que j'ai envie de raconter. » Et ce que j'ai envie de raconter pour moi dans le futur, c'est vraiment des histoires avec quelque chose d'humain. Je fais le lien maintenant entre tout ce que j'ai fait à Combini quand je faisais des portraits. Au départ, c'était juste des portraits qui racontaient des portraits, en fait. C'était juste des portraits qui racontaient un moment, une interview, des gens que j'ai fait en photo. Tarantino qui avait l'impression qu'il allait mettre une droite. Gaspard Huyel qui était tout triste. Enfin, j'ai plein de visages, du coup, qui viennent à moi. Donc, c'est super intéressant. Mais ça pouvait dire quelque chose, du coup, d'un instant. Maintenant, je voudrais aller au-delà de ça et essayer que des personnes que je prendrais de manière assumée en portrait ou parfois à la volée disent quelque chose de plus large, quoi, et pas forcément des personnalités. Et ça revient aussi à la distinction que je faisais un peu plus tôt sur le côté photographie de plateau et photographie documentaire presque. Bah, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je pense qu'en quittant Combini, je voulais aussi assumer que moi aussi je pouvais avoir un discours qui m'était personnel sur un environnement, un lieu ou des personnalités, quelles qu'elles soient, des sujets plus ou moins connus, ça peut être des gens entre guillemets random, même si j'aime pas ce mot, et avoir quelque chose à dire là-dessus, c'était avoir un sens à donner, quoi. Parce que jusque-là, mon travail de journaliste, c'était de rendre compte, en fait, finalement. C'était de percer un peu, peut-être, l'histoire d'un artiste et tout, sa carrière. Mais c'était avant tout pour le mettre en valeur, finalement. Il y avait quelque chose comme ça. Et surtout, de manière paradoxale, c'était des gens qui participaient à de la fiction. Et là, peut-être pour mieux contrer tout ça, j'ai voulu être encore plus dans quelque chose de vrai, entre guillemets, de vrai, enfin de réel, tout en conservant mon éducation de journaliste. Donc pour moi, les prochaines années vont être dédiées à fond à ça, c'est-à-dire à m'affirmer en tant que, le plus possible en tant que photographe, et en essayant de raconter des histoires, pas forcément qui me soient proches, mais où je trouve le plus d'humanité possible. Et forcément, quand je parle de ça, je pense à une photographe que j'ai récemment découverte, qui s'appelle Judith Joy Ross, que j'avais découverte aussi au bal, comme Dave East. Donc c'est peut-être que c'est un lieu, et d'ailleurs qui est un lieu ouvert par Depardon, donc ça fait toujours le lien. Grande photographe, grande portraitiste américaine, mais c'est du portrait très différent, je trouve, du portraitiste qu'on se fait habituellement, c'est-à-dire que tous ces sujets de portrait étaient en lien avec une thématique. Elle a fait une série de photos sur des Américains au mémorial, si je ne dis pas de bêtises, de la guerre du Vietnam. Et elle les a fait in situ, donc vraiment à côté du mémorial, avec où on peut se faire une idée, sans avoir forcément de légende, du parcours de ces personnes qui sont peut-être liées à des frères ou des sœurs ou des parents qui sont morts au combat quelques années plus tôt. Et bref, tout se fait. Enfin, on comprend que tout s'entreprend dans ces images-là. Les images, elles disent quelque chose de la guerre, elles disent quelque chose de la conséquence de la guerre. Il y a même parfois des anciens soldats qui ont été pris en photo au mémorial, donc peut-être qu'ils ont perdu un pote, et ainsi de suite. Et elle le fait d'une manière... Elle fait à la chambre, hein. Donc il y a un truc où elle arrête le temps. Et je sais qu'on voulait parler en plus la différence, ou en tout cas des différentes perspectives qu'on peut avoir, soit avec l'argentique, soit le numérique. Mais quand tu fais ça à la chambre, j'ai l'impression que c'est le stade ultime. Quand tu es photographe et que tu es l'argentique, t'es encore plus dans le présent que j'ai l'impression, hein, qu'avec tout autre appareil photo. C'est-à-dire déjà que l'argentique, t'es dans le temps présent. La chambre, tu peux pas être plus dans le temps présent, quoi. T'arrêtes vraiment le truc. T'es obligé de prendre du temps, ouais, complètement. T'es obligé de prendre du temps. T'es obligé de mettre en place cette espèce d'énorme machine qui peut que intriguer. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que parfois ça marchait si bien ces portraits, c'est que les gens ils comprenaient pas ce que c'était que ce truc énorme qui était sur pattes, quoi. Mais voilà, enfin, les prochaines années, ouais, je les vois comme ça. Je les vois mal, hein, évidemment, mais je me dis en fait que plus les missions et plus les projets perso vont s'enchaîner, mieux je saurai ce que je voudrais faire. Et ça passera par des reportages, peut-être, des commandes de presse, ça passera par des découvertes de pays comme le Liban. Peut-être que je continuerai à faire des photos au Liban si j'en ai la possibilité. Mais ouais, c'est toucher à quelque chose d'humain. Il y a parfois des séries photos que je regarde sur Internet et tout, et il n'y a que du, entre guillemets, du matériel, du... Alors, c'est très texturé, c'est très beau et tout, mais dès qu'il y a un élément humain, bah, ça change complètement toute la photo. Il suffit qu'il y ait une main, et tu te demandes qu'est-ce qu'elle fout là. Alors, si je regarde une photo... Hein, bon, je vais être très radical là-dessus, pour le coup. Donc, c'est peut-être pas forcément ce que je pense à 100%, mais il peut y avoir des photos aussi d'architecture qui sont très jolies, hein. Mais dès qu'il y a une présence humaine, on se pose la question de son histoire, en fait. On se pose la question de qu'est-ce qu'elle fait là, à qui elle appartient, etc. Même d'une main. Alors, imaginons quand il y a tout un corps qui est entier dans la photo, les questions se multiplient et sans forcément avoir les réponses. Donc, c'est à nous aussi, spectateurs, de nous donner les propres réponses, quoi. C'est marrant, mais il y a un siècle, la photo, c'était ce qui racontait. C'était ce qui racontait. Avant, il y avait l'écrit, après, il y a eu la photo, et après, il y a eu la vidéo et les reportages et tout, quoi. Et je trouve que la photo garde toujours le mystère, le mystère de l'instant. On peut écrire... Je trouve que, comment dire, la photo, même si elle est subjective, et tout autant que l'écriture ou même la vidéo, ou quelqu'un qui va cadrer, pardon, il y a toujours un mystère et en même temps une précision. Donc c'est deux choses très paradoxales. C'est que sur une photo avec un cadre prédéfini, c'est comme ça, on ne peut pas le faire à 360. C'est pas... On a des détails très précis de comment c'était, où est-ce que c'était... Mais aussi, on sait aussi que la photo a été prise à un moment donné qui est hyper subjectif Et si t'as une personne qui gueule à un moment donné et que la seconde d'après n'est plus en train de gueuler, ça va donner deux choses très différentes, quoi. Et c'est ça le paradoxe. Alors qu'à l'écrit, on n'aura jamais la précision parfaite de ça, quoi. On peut évidemment être super subjectif, très poète, être vachement dans l'émotion, mais on n'aura jamais le côté factuel. Et c'est ça qui est marrant avec la photo, c'est qu'on peut, face au côté factuel et hyper informatif d'une photographie, mettre en face un mystère et quelque chose de complètement extraordinaire, quoi. On peut mettre en face quelque chose qui interroge.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Vision sur les plateformes de podcast, de Spotify en passant par Deezer, Apple Podcast et nos actualités sur notre site vision.photo, sur notre Instagram @podcastvision. Si vous avez quelques secondes pour noter et laisser votre avis, ça nous aide aussi beaucoup. À très vite pour parler de photographie.